bonsoir à toutes et à tous. Merci de partager cet instant ou ce moment de présentation de deux ouvrages qui sont pour l'un une publication très récente et pour l'autre un peu plus ancien.
Novembre 2011.
Mais c'est pas si loin, non. Alors, nous avons le plaisir d'être en compagnie d'Emmanuelle Polak, qui est historienne.
Bonsoir,
Emmanuelle. Historienne qui travaille notamment sur les archives à la Cité d'architecture et patrimoine, les archives historiques. Ça va de soi.
Oui.
Vous avez publié des ouvrages sur le Yiddishland, si je ne m'abuse. Une bande dessinée aussi avec votre fille, je crois.
Vous êtes bien renseigné, oui. Mais
avec Internet, maintenant, on a accès à des tas de choses.
Oui, voilà. Oui.
Donc, un travail d'historien qui porte en particulier sur l'histoire de la communauté juive d'Europe centrale, peut-être.
Oui, autour d'expositions, parce qu'en fait, j'assure le commissariat d'exposition. Donc, c'était une première exposition qui s'appelait « Artisans et paysans du Yiddishland », qui a été présentée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2006, et c'est vrai qu'autour, il y avait des ouvrages, je décline toujours un petit peu, et ensuite une exposition Rose Vallant sur le front de l'art, qui m'amène ce soir à être avec vous, pour mon plus grand bonheur, et qui m'a permis de décliner aussi ce travail de recherche avec un livre pour les enfants, Rose Vallant, l'espionne du jeu de paume, une bande dessinée chez Dupuis, Rose Vallant, Capitaine Beaux-Arts, et puis surtout ces carnets de Rose Vallant que je vais présenter ce soir.
Voilà, alors avant de reparler de ces carnets de Rose Vallant que vous avez publiés en compagnie de Philippe Dagen, je présente ma voisine de droite, Marguerite Stahl, que beaucoup de Bordelais connaissent, qui a travaillé dans les musées, notamment en Allemagne, qui connaît très bien le milieu muséal allemand, qui a travaillé également fort longtemps à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles Aquitaine, et qui connaît particulièrement les musées de la Gironde. Et je crois que son dernier poste était à Libourne, où elle a publié une somme fondamentale sur Prince Otto, que je vous invite à découvrir, et qui est d'ailleurs aux éditions du Festin, mais pas besoin de les présenter, je crois, à Bordeaux. Voilà. Marguerite, vous avez travaillé en étroite collaboration avec la DRAC Aquitaine sur cet ouvrage « L'art victime de la guerre » que nous allons découvrir tout à l'heure, en étroite collaboration avec Florent Saragoza, conseiller musée pour la DRAC Aquitaine, qui est un petit peu l'artisan de cet ouvrage et aussi des expositions qui se déroulent actuellement dans les différents lieux, différents sites muséaux. On a aussi donc un établissement, un château, le château de Cadillac, qui dépend du Centre des musées nationaux, qui abrite des œuvres, donc tous ces sites qui abritent des œuvres estampillées MNR. Mais nous reviendrons dessus. Emmanuel, peut-être un mot sur Rose Vallant, qui est-elle ?
Oui, alors il va falloir m'arrêter et me donner un temps précis, parce que c'est vrai que j'ai assez travaillé sur Rose Vallant. Rose Vallant est une attachée de conservation. Elle est née en 1898, elle est décédée en 1980. Elle a une formation d'historienne de l'art, tout d'abord de plasticienne de l'art, 7 ans de plasticienne d'art, et ensuite, effectivement, historienne de l'art, ce qui est assez rare pour une jeune personne de conditions tout à fait modestes. Elle va rentrer en 1932 au Musée du Jeu de Paume. Musée du Jeu de Paume, je vous montre l'image ici, est située sur la terrasse des Tuileries à Paris, bordée par la rue de Rivoli et sur la place de la Concorde. Ce musée du Jeu de Paume était un musée dédié aux écoles étrangères contemporaines et elle y a travaillé à présenter différentes expositions. Elle était tout à fait heureuse puisque c'était tout à fait en adéquation avec sa formation. Il se trouve que le musée du Jeu de Paume, dès le 1er novembre 1940, va être le lieu où vont être spoliés, où vont être stockés les œuvres qui vont être spoliées aux familles juives, mais pas uniquement elles, également aux familles des francs-maçons et de tous opposants du Troisième Reich. Il faut savoir, et on en reparlera bien sûr avec l'exposition, avec le catalogue, que c'est une volonté très très importante, préparer de longue haleine, notamment avec le rapport Kummel. Le rapport Kummel trace toutes les œuvres que les nazis veulent récupérer en Allemagne. Il faut savoir que à ce moment-là, la culture va devenir un idéal, va devenir vraiment aux prises de l'idéologie nazie. N'oublions pas qu'Hitler a souhaité et par deux fois n'est pas accepté aux Beaux-Arts de Vienne, qu'il en gardera vraiment une rancœur tout au long de sa vie.
C'est bien triste.
Oui, on l'a souvent dit, s'il était rentré aux Beaux-Arts, vraiment la face du monde aurait été changée, c'est vrai, vous avez raison. Et il y a donc une véritable mainmise sur la culture avec, on en parlera, dès 1937, des expositions à Munich sur l'art dégénéré. Il considère que l'art dégénéré, tout ce qui est influence de l'avant-garde, et surtout l'école d'Ibrecke en Allemagne. Et il y a donc l'arrivée des Allemands, je vais revenir au musée du Jeu de Paume, l'arrivée des Allemands le 16 juin 1940, eh bien, j'ai pu trouver à la préfecture de police un dossier, et donc je vais vous en parler tout de suite, un dossier qui mentionne des exactions sur Place Vendôme, sur les commerces d'art, les galeries d'art des plus grands collectionneurs juifs, que ce soit les Seligman, les Wildenstein, plus tard Paul Rosenberg, on y reviendra. Et c'est un plan donc tout de suite mis à l'œuvre à cet été, lors de l'été 1940. Et à l'automne 40, exactement le 1er novembre 1940, un état-major particulier, alors vous allez excuser mon mauvais accent allemand devant Marguerite en plus, j'ai vraiment honte. Alors il s'agit de l'Einsatzstaatsreichsleiter Rosenberg, qui est un état-major secret, qui a comme mission de confisquer les œuvres de premier plan aux collectionneurs, je l'ai dit, juifs pour la majeure partie d'entre eux, mais pas uniquement, également les opposants du Troisième Reich et les francs-maçons. Donc tout ce matériel, toutes ces œuvres d'art vont être entassées au musée du Jeu de Paume. Rose Vallant est attachée de conservation. Son conservateur, André Desarrois, pour des raisons de santé, n'a plus la possibilité de rester au musée du Jeu de Paume. Et donc, elle se trouve seule, responsable des bâtiments et responsable des quelques collections qui restent, puisqu'il y a eu un plan de mise à l'abri des collections publiques. Puisque le musée du Jeu de Paume était vraiment sur les... Enfin, là, on parlait des collections publiques. Et je pense que là, c'est important avec votre ouvrage, parce qu'on sera aussi vraiment sur les collections publiques. Au musée du Jeu de Paume arrivent des collections spoliées, confisquées, et nous sommes là sur des collections privées. Le rôle de Rose Vallant va être important, primordial. Elle est responsable du bâtiment, responsable des collections, et elle va prendre la décision de noter tout ce qu'elle voit passer pendant 4 années au musée du Jeu de Paume. Donc, il nous manque quelquefois des notes, mais on a pu retranscrire in extenso, et là, c'est là vraiment la force de cet ouvrage, c'est qu'on est devant une source primaire, une source très très importante pour tous les historiens de l'art qui vont vouloir travailler sur cette période, puisque nous avons pu transcrire toutes les notes de Rose Vallant. Elle note le nom des collectionneurs spoliés, le titre des œuvres, elle donne, quand elle a la possibilité, la hauteur. Il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi des horloges fabuleuses, du mobilier assez extraordinaire. Et surtout, elle va noter la destination en Allemagne et elle va très vite comprendre qui va être le destinataire de ces œuvres confisquées. Et on pourrait s'attendre à ce que ça soit Hitler, et en réalité, c'est Hermann Göring, le Reichsmarschall, qui va être le véritable maître du Jeu de Paume lors de l'année 40, 41 et 42. Il va venir plus de 21 fois au musée du Jeu de Paume. Il y fait son marché. C'est impressionnant. Il choisit les œuvres. Les œuvres sont déposées des cimaises et sont conduites ensuite dans son train. Il faut savoir qu'il avait un train particulier et qu'il avait un wagon tout à fait aménagé. Et les œuvres étaient ensuite emmenées, pour ce qui est du Reichsmarschall, les œuvres sont emmenées dans sa résidence secondaire au nord de Berlin, le Karring Hall, qui est un petit Versailles. Il faut savoir qu'il a la plus belle collection d'Europe. Il s'appelle lui-même lui-même comme étant le dernier homme de la Renaissance. Il a un goût absolument très féru, et il va mettre au point un système de surveillance du marché de l'art. Et c'est actuellement le travail que je poursuis sur ce marché de l'art.
Mais précisément, alors, ce Hermann Göring, qui est un personnage qui a des revendications hautes, mais dont on sait à quel point elles étaient misérables en réalité, est un quelqu'un qui affirme, ou qui a des goûts particuliers, me semble-t-il, et qui sont des goûts qui reflètent l'idéologie nazie en termes d'histoire de l'art, ou qui sont des goûts plus larges et plus contradictoires alors.
C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Il a des goûts, c'est-à-dire qu'on retrouve au musée du Jeu de Paume, dans les préférences des pillards, on va retrouver la démonstration de Munich. Ce que j'appelle la démonstration de Munich, c'est-à-dire d'un côté art dégénéré, puisqu'en fait les œuvres des avant-gardistes vont être positionnées à l'arrière du bâtiment dans deux salles que Rose Vallant appellera la salle des martyrs. On a pu retrouver ces œuvres. Je peux le montrer, il y a un travail qui a été fait d'identification assez important, puisque ces œuvres ont été donc identifiées, les propriétaires ont été retrouvés. Il faut savoir que on a des œuvres de Dali, de Picasso, de Fernand Léger, de Degas, Matisse, Chagall, Marie Laurencin. Elles sont vraiment mises à part afin de ne pas contaminer le bon goût du XVIIIe siècle. Sur les goûts personnels de Göring, c'est une personne qui a tout à fait compris ses recherches picturales, et donc on trouvera dans ses collections au Caring Hall, on trouvera des œuvres des avant-gardistes, parce que ce qui est proscrit pour le Troisième Reich, puisque ces œuvres n'avaient pas le droit de rentrer en Allemagne, les musées avaient été épurés dès 1938, et bien dans sa collection personnelle ça ne le posait pas de problème, et on a retrouvé un Pissarro qui est d'autant plus un peintre juif, voilà. Donc, ses goûts, juste en deux mots, si vous me le permettez, on a retrouvé dans sa collection 60 Lucas Cranach. C'est vraiment, le palmarès, au palmarès de la collection Göring, il arrive en tout premier lieu. Et on a retrouvé 9 Rembrandt. Je le dis puisque demain nous en parlerons et j'aurai des photos à montrer. 9 Rembrandt, 3 attribués à la collection Jack Kousticker d'Amsterdam. Il faut savoir que cette spoliation n'est pas que sur le territoire français, mais qu'il est aussi en Belgique et au Luxembourg et bien évidemment européen, en Allemagne également. Donc, en fait, on voit vraiment que c'est la culture germanique qui est mise à l'aveur, et la culture du Nord, oui. L'âme du Nord.
Oui, c'est assez frappant de constater à quel point cette culture, on va dire, rhénane est portée au pinacle. En même temps, on s'aperçoit que parmi les artistes qui sont les plus prisés, Rembrandt, là aussi, je suis un peu surpris, c'est quand même un artiste qui s'est fortement intéressé à la communauté juive d'Amsterdam, dont on retrouve un certain nombre de sujets qui sont, on peut dire, pas très, je ne sais pas comment il faut le formuler, mais en tout cas, ne correspondent pas à ce que les nazis prisent. Et puis, il y a surtout, pour moi, quelque chose de tout à fait surprenant, c'est ce goût donné à la peinture française du XVIIIe siècle, Boucher, Fragonard, etc., donc des scènes qui sont des scènes qu'on pourrait qualifier de frivoles, peut-être, et qui me semblent pas tellement, là aussi, correspondre à ce pan-germanisme qui se diffuse.
C'était le goût du grand Frédéric.
Mais c'est le goût d'une Allemagne qui était une Allemagne francophile, mais pas franchement...
Les goûts d'Hitler aussi. Les goûts d'Hitler, vraiment, c'était pour tout ce qui est... Enfin, vous pensez au Boucher, par exemple, oui. Et il y a eu des revendications très importantes et des échanges souhaités avec les musées nationaux. Et Jaujard a fait tout ce qu'il a pu pour stopper net ses revendications, mais c'était vraiment des œuvres, pour revenir sur Rembrandt, sont des œuvres de première qualité, qui appartiennent aux familles Rothschild aussi. Oui. Donc il y a la volonté, là, de confisquer des œuvres à des familles riches.
Parmi les collectionneurs les plus réputés, je crois qu'il y a une collection qui a excité les convoitises, tout particulièrement de ces personnages, c'est la collection Schloss, si je ne m'abuse.
Absolument, absolument. La collection Schloss, c'est une traque de très très longue haleine. Et effectivement, et Schloss avait aussi des Rembrandt dans sa collection, et ça a été vraiment des péripéties Et...
Alors pour l'information, c'est une collection qui avait été abritée, mise à l'abri en Corrèze et qui a été retrouvée sur dénonciation, hélas. Donc les héritiers ont été eux-mêmes arrêtés, je crois, du côté de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Oui, absolument.
Voilà. Donc un moment un petit peu dramatique, encore une fois. Et puis,
333 œuvres.
333 œuvres qui sont captées au profit du futur musée, enfin, du musée qui avait été projeté à Linz.
À Linz, oui, oui, ça c'est les œuvres qui ont comme destinataire Hitler et Hitler à la volonté de créer une des plus grandes galeries à Linz, qui est la ville en Autriche, Linz en Autriche, qui est la ville où il a passé sa jeunesse et pour honorer sa mère.
C'est touchant. Bref. Alors, à propos de Göring, on s'aperçoit là aussi que pendant ces années où il vient se servir, il y a un renversement un petit peu du rôle des situations et l'effacement de Göring, en fait, sa disgrâce progressive, se fait au profit de Rosenberg. C'est bien ça, ou directement du Führer.
Oui. Rosenvallon est au sein de la fosse aux loups. Voilà, quand j'en ai parlé à Philippe Dajat, il m'a dit « Non, non, on parle de la fosse aux lions ». J'ai dit « Écoutez, ça fait un peu plus germanique, de la fosse aux loups ». Elle est là et elle est en fait le témoin non seulement des exactions perpétrées sur les collections privées, mais elle est aussi le témoin privilégié des rivalités intestines entre les dignitaires du Troisième Reich qui ont vu là un moyen pour Göring d'agrandir sa collection à moindre frais, puisque son goût n'avait que d'égal son avarice. Donc il voyait là le moyen d'avoir une collection à moindre coût. Et il y a bien sûr, c'est ce qui nous a intéressé de voir, puisque Rosenvallon va lister et va donner le nom des collectionneurs et tout, mais elle croque ce qui se passe au sein de ce musée du jeu de paume qui est finalement un huis clos. Alors il y a des secrétaires qui essayent de se faire épouser par leur patron, et finalement il y en a une qui arrive très bien. Elle va essayer de trouver des cadeaux de mariage dans les collections des spoliés. Tout ça pose d'énormes problèmes lors de l'immédiate après-guerre pour la restitution des œuvres, parce qu'il n'y a aucune traçabilité possible dans ces cas-là. Il y a également des guerres de chefs pour prendre le pouvoir sur le butin, comme vous le dites. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça.
Parce que pour revenir au tout début, en tout cas, de cette spoliation, l'idée, c'est peut-être une idée qui n'a été que vaguement caressée, c'était finalement un butin de dommages de guerre, en quelque sorte, mais qui était... la spoliation s'exerçait uniquement sur les familles d'origine juive ou opposant au régime nazi, mais c'était une forme de marché potentiel. Voilà, c'est ça, en fait. Une sorte de compensation financière qu'on pouvait garder à disposition au cas où. Et puis, rapidement, ça a dégénéré par des exactions privées, en définitive.
Oui, du coulage. En fait, il s'agit, et le vocabulaire, alors ça serait vraiment très intéressant de le voir en allemand, j'en ai pas du tout les possibilités, mais on parle les nazis vont parler de sauvegarde du patrimoine artistique. Et tout de suite, ils décident de le mettre sous bonne garde pour pouvoir le protéger. Et cette sauvegarde, finalement, n'est ni plus ni moins qu'un pillage. Et les rapines vont aller... Je vous ai parlé de Göring, je pourrais vous parler de Ribbentrop, également de Hitler, on l'a dit, Goebbels, enfin, vraiment, tout le monde... c'est le festin des loups, et tout le monde veut sa part. Il faut savoir qu'Hitler fêtait son anniversaire et qu'il était de bon ton de lui offrir une des œuvres qu'il convoitait le plus. Donc il avait des peintres qui étaient vraiment sur une liste et il fallait absolument trouver cette œuvre. Et ces œuvres étaient facilement trouvables dans les collections spoliées et conservées au musée du Jeu de Paume.
Alors, pour revenir sur ces rapaces, ils font parfois preuve d'une naïveté qui est confondante. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans le cadre d'échanges, en particulier avec des œuvres dites dégénérées, ils se font littéralement rouler par les marchands qui participent à ces rapines, en définitive. Et on a parfois des exemples, enfin vous en citez, où un Titien un peu hasardeux est échangé contre...
Faux.
Voilà. Contre 11 tableaux véritables de Matisse à Picasso, enfin, je crois.
Oui, oui. C'est un sport national que de refourguer, excusez-moi de l'expression, refourguer des faux à ces personnes. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de faux. Tout dernièrement, j'ai rencontré une personne du musée d'Amsterdam et on parlait des Van Gogh, et donc Van Gogh complètement dégénéré. Et Göring a dans ses collections un Van Gogh spolié. Et cette conservatrice avait perdu la trace de cette œuvre. Et en fait, je lui ai montré sur la base ERR, puisqu'on trouve maintenant la base ERR. Et on est retombé sur le Van Gogh en question. Et tout de suite, elle s'est écriée, mais c'est un faux, c'est le faux. Et donc, c'est vrai que c'était... Il y a eu beaucoup. Je pense à une marchande d'art, Alma Dietrich, qui est une amie d'Eva Braun. Et donc, il y a ce titre, va surveiller le marché parisien. Et elle n'y connaît strictement rien en histoire de l'art. Et elle n'achète qu'à des prix faramineux que des faux, souvent des faux et absolument pas...
Oui, ce qui rend un peu pittoresque, c'est cette spoliation, enfin du moins sur ce plan-là. Alors, pour revenir sur la salle dite des martyrs, où un certain nombre d'œuvres sont identifiées, on a en particulier un artiste que l'on voit apparaître, c'est Fédor Lovenstein, artiste qui figure également dans l'ouvrage qui est publié par l'ACMA, tout récemment. Fédor Lovenstein est un artiste qui a une résonance avec l'histoire de Bordeaux, puisqu'on sait qu'une partie de son atelier a été arrêtée à Bordeaux, sur les quais, en douane, et pour partie, sans doute, détruite. Partie de son atelier a été détruite. Alors, tout récemment, on a retrouvé des œuvres qui sont aujourd'hui donc, conservées par le Musée national d'art moderne. Mais...
C'était un artiste d'origine tchèque. Et qui a fait ses études à l'école des beaux-arts de Berlin et de Dresde, et qui a très vite quitté l'Allemagne et s'est installé à Paris. Donc il a fréquenté évidemment toute cette école de Paris de l'époque. Et il avait l'idée d'exposer aux États-Unis. Et donc c'est un lot de tableaux qui devait partir pour une exposition aux États-Unis qui a été pris. Et, voilà. Et là, il y a eu de nouvelles découvertes, justement, sur Lovenstein, et qui figurent dans le catalogue qui sort maintenant. Et c'est très intéressant, parce que Bordeaux a été cette plaque tournante, un petit peu, pour le départ de grandes collections.
Oui, parce que Bordeaux, c'est le port pour les Amériques. Oui. D'ailleurs, Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Et c'est vrai que c'est finalement une sortie qui a été envisagée par... à la fois des artistes, mais aussi des collectionneurs. On sait, en dehors de Fédor Lovenstein, qu'une partie des œuvres de la famille Rosenberg a été spoliée, précisément en Aquitaine et à Bordeaux.
Parce que les Rosenberg possédaient, Paul Rosenberg, le marchand de tableaux, possédait une propriété à Florac, et dans cette propriété était stockée également une partie de sa collection. Et donc le lien était antérieur évidemment à la guerre. Donc beaucoup ont profité un petit peu de ces liens avec l'Aquitaine pour stocker des tableaux et pouvoir ensuite les faire partir aux États-Unis ou en Amérique du Sud, bien évidemment.
Alors sans doute vous penserez aussi parmi les grands collectionneurs dont les œuvres ont été spoliées, la famille Rothschild, là aussi avec une très forte implantation en Gironde et donc des œuvres qui ont été captées dans les châteaux directement. Voilà. Mais pour revenir donc à cet ouvrage, c'est un ouvrage qui se propose en définitive de faire le point sur un certain nombre d'œuvres qui sont aujourd'hui confiées à la charge des musées aquitains, depuis Pau, Bayonne jusqu'à Périgueux, en passant donc par Bordeaux, Cadillac. 37 œuvres, si je...
Oui,
c'est ça.
37.
Et qui sont pour la plupart arrivées après-guerre.
Qui sont arrivées entre 1950 et 1956. Enfin, il y a eu plusieurs envois, mais on peut en principe dire que c'est le début de la première moitié des années 50. Ces œuvres sont arrivées et déposées donc dans les musées, et elles portent ce numéro un peu mystérieux, si l'on regarde de près les cartels MNR, donc Musées Nationaux Récupération. Et ce sont des œuvres qui sont déposées dans les musées, mais qui n'appartiennent évidemment pas au musée.
Voilà, alors donc elles sont en attente d'une identification, de descendants potentiels. Chose qui peut toujours survenir, on s'en aperçoit, puisqu'il y a eu des restitutions relativement récentes. Alors 37 œuvres sur 2000, je crois, tableaux.
Oui, sur plus de 2000 qui ont été redistribuées, redéposées dans les musées en France. Donc après la guerre, c'était le travail qu'a fait Florence Saragossa, qui est notre conseillère musée et qui a fait ce choix justement de, de présenter ces œuvres était intéressant parce que ça nous a permis, alors là je fais une toute petite parenthèse à propos des musées aquitains, de présenter ces œuvres en même temps sur les 7 musées qui détiennent ces 37 œuvres. Cela a permis aux conservateurs aussi de ces différents musées de travailler ensemble. Et le résultat, c'est ce catalogue que vous voyez ici et qui reprend la totalité des œuvres par des notices très détaillées, par un historique aussi très détaillé, dans la mesure où l'on sait la provenance des œuvres, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous parliez de Göring tout à l'heure. Il y a un tableau de Canaletto qui se trouve au musée des Beaux-Arts d'Histoire de Périgueux, qui vient de la collection Göring, on le sait, puisqu'il y a quelques étiquettes au verso qui nous permettent de le prouver. Pour la majorité, c'est extrêmement difficile, parce que nous n'avons pas retrouvé les œuvres. Ce sont des œuvres qui ont été, non pas spoliées, évidemment, en Aquitaine, mais redistribuée après la guerre dans les musées. Donc elles ne proviennent pas forcément de la région. Il y a des œuvres qui proviennent également de musées allemands qui les avaient achetées, achetées entre guillemets,
de façon très avantageuse.
Très avantageuse et qui ont été reprises au moment où les Américains et les Britanniques sont entrés en Allemagne et ont créé très rapidement ces commissions. Alors je peux vous donner 2 chiffres parce que ça il faut quand même. À partir de 1944, on a récupéré 61 233 œuvres. 61 000. 45 441 œuvres ont été identifiées et restituées, ce qui est énorme. On imagine après-guerre.
Voilà, le travail de restitution.
C'est ce travail-là.
A été immédiat.
On se rejoint avec.
Et finalement, il a été grandement facilité par les notes de Rose Vallant.
Oui. Mais 45 441 œuvres, c'est impressionnant. Vraiment.
Oui. Alors, je vais juste remettre un tout petit peu Rose Vallant, excusez-moi, mais juste un petit peu, la remettre un tout petit peu en valeur. Parce que Rose Vallant va noter pendant 4 ans. Tout ce qu'elle voit, elle va dès août 44, elle se rapproche des alliés et elle demande à être entendue pour confier ses notes, ce qui sera fait, ce qui évitera qu'on bombarde des endroits comme Berchtesgaden, comme Altaussee en Autriche, qui sont les abris qu'elle a tout de suite mentionné, qu'elle a tout de suite compris que toutes les œuvres étaient là. On l'écoute. Rose Vallant va demander à être intégrée au sein de la première armée pour partir sur les traces des œuvres qu'elle a vues passer au musée du Jeu de Paume. Il se trouve que c'est plutôt sous la protection américaine et en zone américaine que sont les abris. Donc, elle demande à être intégrée au sein de la 7e, avec le grade de lieutenant-colonel, au sein de la 7e armée américaine. Elle va auprès des Américains et elle va retrouver ses œuvres au bord d'une Jeep. Elle n'a pas d'essence, enfin, elle a vraiment moult pérégrinations. Et elle va travailler pendant une dizaine d'années en Allemagne à récupérer ses œuvres. Elle travaille également, comme on parle un petit peu d'histoire de l'art, d'histoire du goût, elle travaille à la dénazification des musées. Et donc, elle va essayer de réintégrer ses œuvres d'avant-garde. Oui. Sur les œuvres qui vont revenir, on peut dire que, pour vous rejoindre, 100 000 auraient été transférées de France en Allemagne et en Autriche, 60 000 d'entre elles seraient revenues, 45 000 auraient été restituées aux propriétaires ou aux ayants droit lorsque cela n'était pas possible. Le différentiel, finalement, ce sont quelques œuvres qui ne sont pas de prime importance. Et les 2000 œuvres sur lesquelles nous parlons et qui s'appellent maintenant, effectivement, MNR, Musées Nationaux Récupération, ce sont 2000 œuvres qui n'ont pas retrouvé repreneur, qui sont, elles, des œuvres de premier ordre, de très grande qualité, comme on va le voir dans l'exposition et dans le catalogue, et qui ont été confiés aux musées nationaux, à charge pour eux de présenter au public pour que ces œuvres, pour que ce travail de restitution d'œuvres soit encore aujourd'hui tout à fait présent. Et comme vous l'avez dit tout à fait justement, eh bien, il y a encore des restitutions.
Il y a encore des restitutions. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir comment ces œuvres ont été déposées et quel est le choix qui a été fait. Je prends deux exemples. Le premier exemple, un petit et un grand musée. Le petit musée, c'est le musée des Beaux-Arts de Libourne. On en a déposé à Libourne deux tableaux d'un peintre bordelais qui s'appelle John Lewis Brown. Et pourquoi Libourne ? Parce que le sujet, Lewis Brown est aussi un peintre qui a peint, de la nature évidemment, mais également des chevaux. Et alors cette thématique des chevaux rejoint des œuvres d'un peintre libournais qui s'appelle Princeteau. Donc on a associé Princeteau et Lewis Brown. Pour Bordeaux, Marc, ça serait bien d'en parler, il y a 11 tableaux, c'est ça ? 11 tableaux ? 10 ? 10 tableaux au musée des Beaux-Arts, avec évidemment une majorité de peintures anglaises, le lien avec Bordeaux et l'Angleterre. Donc je pense qu'on a toujours essayé de trouver
un lien
qui permette de... Et les tableaux de la collection anglaise que l'on voit à Bordeaux, eh bien, ce sont des tableaux qui proviennent évidemment qui sont ces fameux numéros MNR.
Voilà. Et qui, pour certains d'entre eux, sont des œuvres majeures dans la collection, il faut le dire. C'est-à-dire, par exemple, le portrait de Robinson, le primat de l'Église d'Irlande, par Reynolds, est un chef-d'œuvre absolu et une des œuvres les plus importantes de cet artiste conservé en France, qui attend naturellement un jour de retrouver ses propriétaires légitimes. Mais dans cette attente, le devoir de la ville, le devoir du Musée des Beaux-Arts, c'est de les présenter, de les mettre à la disposition du public. Voilà, donc ce sont des œuvres qui ont un statut temporaire, vous l'avez compris, et que l'on retrouve disséminées à l'intérieur de la région. Bordeaux a été particulièrement honoré, entre guillemets, parce que c'était l'établissement le plus important de la région, et l'établissement Beaux-Arts s'entend. Donc parmi les œuvres que vous pouvez découvrir, vous avez aussi les écoles nordiques qui sont bien représentées, et là peut-être qu'on retrouve une idée un petit peu du goût de l'idéologie nazie, mais vous avez aussi les Italiens, et en particulier le 18e Vénitien, qui apparaît et qui forme comme une sorte de suite logique à la présentation des collections que l'on retrouve au sein de cet établissement. Mais pour revenir un petit peu sur l'actualité, dans cet ouvrage, différentes contributions nous éclairent sur des recherches récentes, et en particulier, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt la contribution d'un journaliste, Philippe Sprang, oui. qui évoque le cas d'un Woevermann. Donc là aussi, autre artiste hollandais particulièrement prisé par les nazis, le cas d'un Woevermann qui aurait été finalement spolié à la famille Rothschild et redécouvert très récemment au sein d'un marchand trafiquant qui a connu une longue carrière, si je veux dire.
C'est-à-dire Bruno Lozeu. Voilà. Vous voulez que je dise un mot de Bruno Lozeu?
Oui, je veux bien.
Bruno Lozeu, c'est assez extraordinaire. Il est au musée du Jeu de Paume à partir de 1941. C'est l'ennemi intime de Roosevelt. C'est l'ennemi intime parce qu'il est très intelligent. C'est un historien du XVIIIe siècle, spécialiste des écoles du Nord, et qui est chargé par Göring de surveiller le marché de l'art. Il va être très très peu inquiété à la fin de la guerre. Il va réouvrir une galerie d'art à Munich. Il redevient marchand. Il est inquiété pendant très très peu de temps. Philippe Sprang m'en parlait et il disait on n'a pas finalement la date. On ne sait pas combien de temps il est resté en prison. On a ces actes d'accusation, mais on ne sait pas combien de temps il est resté. Il est reparti.
Il a été jugé en France, c'est ça ?
Il a été jugé en France, tout à fait, au tribunal Leblanc. Roosevelt et sa partie adverse, elle s'en sort très 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 mal. Il est très fin. Il met absolument tout sur le dos de Von Baer qui s'est suicidé, de Göring qui s'est suicidé également. Et il va recommencer une carrière de galériste. Il décède en 2007 sur une commission rogatoire du juge Ivo Hoppler. On ouvre son coffre-fort, enfin des coffres-forts en banque qu'il a en Suisse et au Luxembourg, et on tombe sur, là encore, des œuvres, enfin une quantité d'œuvres dont on travaille, sur lesquelles on travaille actuellement pour avoir les provenances, mais dont on sait qu'elles sont passées au musée de Jeu de Paume, et ce sont des œuvres qui ont été véritablement spoliées.
Finalement, ce qui est particulièrement spectaculaire dans cette histoire absolument incroyable, c'est que ce personnage qui a pu bénéficier donc d'une incroyable indulgence a par ailleurs pu recommencer une carrière en se servant d'un réseau fantastique en termes de marchands. Il a même été en contact avec des personnes qu'on ne qu'on n'imagine pas, comme les Wildenstein. Enfin bon, donc, bref, une actualité un peu délicate, je trouve.
Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais vous savez, actuellement, en travaillant sur le marché de l'art, ce qui m'occupe actuellement, vous avez des grandes galeries qui ont pignon sur rue et qui, vraiment, ont travaillé très largement avec les musées allemands, les Allemands, pendant la guerre.
Oui, voilà. Certain. On peut souligner aussi à quel point, dans cette occupation, eh bien, certaines galeries ont joué un rôle vraiment condamnable, c'est le moins qu'on puisse dire, et ont amplement participé à la spoliation de ces personnes privées. Pour revenir à cet ouvrage, parmi les contributions que l'on relève également, il y a cette histoire de Fédor Lovenstein, et alors finalement la redécouverte de trois œuvres de façon très récente, l'identification en définitive, et d'ailleurs je pense que cette photo de la salle des martyrs
a aidé grandement, parce que grâce aux méthodes, à la technique actuelle, on a pu non seulement faire des agrandissements, mais redresser également certains tableaux pour mieux les voir et les identifier. C'est ça, vous êtes arrivé quand même à pouvoir identifier la majorité de ces murs.
Oui, alors moi je n'ai pas travaillé sur la salle des martyrs, oui. C'est Alain Prévet, responsable des archives des musées nationaux, et Thierry Bajou, qui est conservateur à la direction des musées de France, qui ont mené ce travail. Oui. Et travaillant ensemble sur les fonds d'archives, on a souhaité présenter, ils ont permis que leur travail soit présenté au sein de ce livre, et c'est à la lueur de ce travail que finalement on s'est aperçu que les Lovenstein dont vous parlez, finalement, avaient un bordereau intégré au sein des collections publiques du musée d'art moderne, et qu'en fait ils n'étaient, enfin j'ai envie de dire, que des MNR, c'est-à-dire qu'ils avaient un statut temporaire, un statut qu'il faut maintenant éclaircir et travailler à leur provenance, à leur traçabilité, et essayer de retrouver les propriétaires.
Alors ce qui est fort dommage aussi, c'est que nous parlons évidemment des collections, des œuvres, mais tout ce qui a disparu également dans cette tourmente, ce sont les ateliers des artistes. Avec ces fonds d'atelier, pour beaucoup, il y a une partie un peu de cette vie artistique parisienne, je pense, surtout à Paris, de ces peintres venant de l'Europe de l'Est, s'installant à Paris, n'ayant pas pu quitter l'Europe à temps, ou ne pensant pas que c'était nécessaire. Et ces fonds d'atelier, ça c'est une trace de la vie artistique qui a totalement disparu, parce que ça n'a pas été sauvé. Ça a été pillé sûrement, mais les ateliers eux-mêmes, on les a fait disparaître.
Et finalement, le cas de Fédor Lovenstein est tout à fait révélateur, puisque cet artiste, qui devrait être beaucoup plus connu aujourd'hui, a sombré dans l'oubli par la disparition de son œuvre. Et il ne nous reste finalement que peu d'exemples, peu de traces de son activité artistique, alors que l'on sait qu'il a été proche, alors ça c'est pour la petite anecdote, proche d'André Lhote, alors qu'on sait que Sonia Delaunay, oui, je vois les visages réjouis rien qu'à l'annonce de ce scoop. On sait donc qu'il a été à Mirmande, on sait, etc. Donc c'est un artiste qui a été très proche de certains noms que l'on connaît bien aujourd'hui. Et malheureusement, en détruisant leur œuvre, les nazis ont effacé de l'histoire de l'art un certain nombre de noms qui auraient aujourd'hui toute leur place dans cette histoire du XXe siècle, l'histoire de la peinture du XXe siècle. Alors pour là aussi, peut-être pour information, ces trois œuvres qui ont été retrouvées donc très récemment et identifiées très récemment seront présentées à Bordeaux l'année prochaine, au premier entre avril et mai, donc dans le cadre de l'œuvre invitée au Musée des Beaux-Arts. Donc vous aurez finalement la chance de pouvoir découvrir ce qu'était le talent de Fédor Lovenstein, qui est un artiste tout à fait intéressant et qui montre bien à quel point un certain nombre de courants ont pu influencer ces artistes, ces peintres, dans la première moitié du XXe siècle.
Je voulais simplement faire une petite parenthèse à propos du sort des œuvres par les nazis. Les spoliations d'œuvres dites art dégénéré, qui ont été évidemment quelquefois comme des prises de guerre pour des nazis personnellement, étaient quand même une monnaie d'échange, puisque la plaque tournante était la Suisse. et que des maisons de vente aux enchères comme la Galerie Fischer, qui existe encore aujourd'hui, a été la plaque tournante pour la vente justement de cet art dégénéré qui a rapporté beaucoup d'argent aux nazis. Donc ils exportaient aussi ces œuvres-là pour les vendre, c'est ça hein.
Oui, ouais. Tout à fait. Vous parlez de la célèbre vente Fischer à Lucerne. Ce sont les tableaux qui sont enlevés des collections publiques allemandes, voilà, et qui vont venir. Et les collectionneurs se posaient la question de savoir s'ils devaient s'y rendre ou ne pas s'y rendre, parce que les œuvres étaient vendues à des prix si bas que c'en était véritablement dérisoire. Et de nombreuses personnes ont dit « nous n'allons pas nous y rendre ». Mais effectivement, d'autres personnes ont fait des sacrées affaires et doivent s'en féliciter encore aujourd'hui. Donc, au musée du Jeu de Paume, excusez-moi Marguerite, au musée du Jeu de Paume, c'est intéressant, puisque c'était aussi la salle des martyrs, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, eh bien, devient un réservoir. Et en fait, on va se servir de ces œuvres dites d'art dégénéré, confisquées aux familles juives, et on va s'en servir comme monnaie d'échange. Et donc, vous parlez de... Il y a eu 28 échanges, et contre des œuvres très, très moyennes, pour ne pas dire médiocres, eh bien, on va échanger des œuvres de très grande qualité, de premier ordre, des Dali, des Picasso, des Braque... des maçons, des Laurencins, enfin voilà. Et je suis là sur un Philippe Sprang, lui est vraiment très très intéressé par Bruno Lozeux, et moi je m'intéresse beaucoup à un marchand qui s'appelle Gustav Rortlitz, qui arrive en France en 1933, et donc qui va à Paris et qui va déjà avoir un réseau très très important, et une grande partie des échanges sont faits en faveur de Gustav Rortlitz. Donc il va avoir un stock impressionnant qu'il va avoir directement de cette salle des martyrs. Et ça pose, comme je le disais tout à l'heure, le problème de la restitution des œuvres, du retour des œuvres aux propriétaires, puisque en fait des œuvres qui auraient été échangées et qui auraient été vendues, enfin on ne peut pas penser que ça peut être légal pendant cette période de l'occupation, eh bien, il faut absolument se débrouiller pour que la vente ne soit pas reconnue et que le propriétaire rentre en possession de son bien. Mais ça, c'est un énorme problème. Je parle juste du fonds d'archives, si vous me le permettez. C'est un fonds d'archives très important qui est au ministère des Affaires étrangères et européennes, fonds improprement appelé Rosevalent, qui contient 900 cartons d'archives que Rosevalent va s'employer, pour finir avec elle, va s'employer à ramener et à récupérer d'Allemagne et d'Autriche. Et je pense qu'on aura beaucoup. Ce fonds est en cours de classement. Il est très important, énorme. Il y a une vraie volonté de travailler dessus. On y voit de plus en plus clair. Enfin, vraiment, je travaille beaucoup sur ce fonds et je suis absolument ravie parce que je trouve que les choses avancent et je suis sûre qu'on aura beaucoup de réponses et que dans les prochaines années, on trouvera le nom de propriétaires des œuvres dites MNR. Mmh.
Voilà une perspective qui ne fait que nous réjouir, d'autant que finalement l'État français s'est à nouveau intéressé au statut de ses œuvres de façon relativement récente. J'en profite pour rappeler que c'est sous le gouvernement d'Alain Juppé que la commission Matteoli a à nouveau planché sur le statut si précaire de ses collections pour remettre en lumière cette tragédie et finalement tenter par tous les moyens de retrouver leurs propriétaires légitimes.
À partir de 1997.
Voilà. Oui, la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, qui découle, qui est une préconisation effectivement de la commission Matteoli qui travaille encore actuellement.
Donc le catalogue se divise en deux parties. Je reviens à la commission Matteoli. La première partie a été réservée aux auteurs d'articles, notamment Alain Juppé. Il y a un texte à propos justement des travaux de la commission Matteoli. Et la deuxième partie s'articule autour des œuvres, autour des notices de ces 37 œuvres déposées dans nos musées et qui, pour beaucoup, sont encore avec un grand mystère, en ne connaissant pas non plus trop la provenance. Mais il n'est pas dit que ces 37 œuvres, un jour ou l'autre, une ou l'autre... un jour, grâce à vos recherches, on puisse trouver un pédigré complet, en fait.
Depuis que j'ai travaillé sur les carnets de Rose-Vallant, j'ai pu aller voir deux galeries et leur dire qu'ils avaient la possibilité de prétendre à rentrer en indemnisation, puisque la restitution n'était pas possible dans ce cas-là. Voilà, une galerie de premier ordre, et il m'a dit « Non, c'est impossible, mon père m'aurait parlé, nous n'avons pas été spoliés, c'est pas possible et tout. » Et puis je suis revenue avec des documents d'archives, et il m'a dit « Ah là, c'est vraiment incroyable !» Et puis après, voilà, c'était le fil rouge, le téléphone rouge, et quand je m'annonçais, vraiment, il était assez, assez content, et il a pu prétendre donc à l'indemnisation d'une huile de Georges Braque, qui s'appelait « Vert et raisin », et deux dessins de Picasso dédiés aux galeristes. Et puis là, je suis sur la piste d'un tableau et d'une galerie. Et voilà, j'ai très bon espoir de faire le lien très, très, très prochainement.
Finalement, vous succédez avec succès à Rose-Vallant.
Oui. Non.
En tout cas, vous avez repris la flamme. Oui. Et ces notes sont... ou combien précieuses en définitive.
Il y a des histoires qui ne passent pas, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, et je fais toujours très très attention au vocabulaire, je parle d'œuvres transférées et non pas déportées. Il ne faut pas oublier que pendant que le marché de l'art et que les commissaires-priseurs avaient des belles ventes sous leur marteau, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y avait des victimes qui partaient en train, qui partaient plus loin que l'Allemagne, qui partaient vers l'Est, et qui étaient, elles, exterminées. Donc il faut remettre les choses à leur place. Nous travaillons effectivement sur les œuvres d'art, mais il faut toujours voir que, et sur l'histoire de l'art, ce qui est effectivement une passion, mais il faut remettre ça dans son contexte historique et remettre les choses à leur bonne place, je pense.
Juste mesure, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ma foi, mais c'est un travail de réparation qui est en cours.
Un devoir de mémoire, je pense. Mémoire. Oui, tout à fait. Un tableau, ça participe d'une... de la vie familiale, beaucoup de personnes m'ont dit, j'avais un tableau dans le salon, tous les dimanches on le voyait, enfin vraiment c'est un choix, c'est une propriété aussi, et c'est vraiment, je pense que ça, voilà, ça, c'est un sujet qui est connexe à la Shoah aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est la volonté là aussi d'éradiquer, enfin vous parliez de l'école de Paris qui était en pleine expansion, qui avait vraiment là, pendant que ces 4 années, eh bien, c'est toutes les recherches picturales ont été complètement stoppées et arrêtées. Ouais. Ne parlons pas même de l'Allemagne, avec des peintres qui avaient, je pense aux expressionnistes, que ce soit Kirchner, Bergman, Nold, enfin Nold qui a souhaité participer, oui, qui était nazi, mais qui fait partie de l'exposition 1937 Art dégénéré. Voilà, ces peintres avaient interdiction de peindre. Donc il y a là aussi, voilà, des histoires. Vous parlez des ateliers, il y a aussi des carrières qui se sont stoppées nettes.
Qui se sont stoppées nettes. Oui. Je crois que la région Aquitaine est la première région à se pencher un petit peu, grâce à Florence aussi, à se pencher un peu sur ces MNR. Donc ce serait souhaitable que nous, on le fait dans le cadre de notre association de conservateurs, qui regroupe l'Aquitaine. Ce serait souhaitable que les autres régions s'attellent aussi à ce sujet-là, pour avoir finalement la totalité, région par région, la totalité des œuvres déposées dans les musées portant ce fameux numéro MNR. Ça serait, on sait au niveau national, mais ça serait intéressant que chaque région s'occupe un petit peu de ces dépôts.
Ça devrait être une obligation. Oui. Et je pense que vous avez montré l'exemple, et je suis particulièrement flattée et honorée d'être à vos côtés, et j'ai hâte de découvrir cette exposition, et j'ai découvert ce beau catalogue, et je vous remercie beaucoup vraiment de votre invitation, et je suis sûre que ça va être couronné de succès.
Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à Florence qui a eu l'idée et aux conservateurs qui ont travaillé pour faire ces notices et tout ce travail de catalogue et de présentation, puisque vous verrez au Musée des Beaux-Arts demain la présentation des 10 œuvres qui sont en dépôt. On n'avait pas le temps de faire le tour de la région, mais chaque musée de ces 8 musées participants a fait un effort particulier pour la présentation. Et là, je présente ce qu'a fait le musée d'Agen, le musée des Beaux-Arts d'Agen, pour la nuit des musées. C'est un petit document qui a été donné gratuitement aux visiteurs pour la nuit des musées et qui reprend une partie des textes du catalogue et d'autres, avec les 4 tableaux qui sont au musée des Beaux-Arts d'Agen et que vous pourrez toujours voir puisqu'ils sont accrochés évidemment en permanence. Si vous allez faire un tour à Agen, vous les verrez. Ce sont des tableaux de grande qualité et tout à fait intéressants. Voilà. Donc chaque musée a fait un effort. Le musée à Cadillac, au château de Cadillac, il y a une tapisserie. La deuxième tapisserie est au musée basque à Bayonne. Pour le reste, ce sont des peintures, sauf à Pau, une sculpture de Charles Despiau. Et au musée d'anthropologie du tabac à Bergerac, une râpe à tabac en ivoire magnifique du XVIIIe siècle. Voilà, c'est là. C'est pour ça. Au départ, nous avions pensé faire une exposition commune, présenter la totalité des objets, et puis nous avons trouvé intéressant de que chaque musée fasse un effort sur ses œuvres et de faire un catalogue commun. Voilà. Ça a été le...
Oui, en tout cas, c'est un travail de groupe, et oui. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Merci, Emmanuel.
Merci avec grand plaisir.